D'accord. Donc en fait, il y a trois questions. Il y a la publication des indicateurs, il y a la question du privé, il y a la question des écoles. Alors sur les indicateurs, c'est une question un peu technique, un peu complexe. Quand je disais la difficulté d'accès à des données, c'est compris les difficultés d'accès à des données pour des chercheurs. Hein, pour des chercheurs. Aujourd'hui, sans convention, on ne peut pas avoir des données de l'ADEP. Hein, ou bien des données qui sont agrégées, enfin, etc. Et on nous interdit, d'ailleurs, moi j'ai signé une convention avec eux il n'y a pas très longtemps, on nous interdit dans la convention de faire des traitements à moins de 5 collèges. Alors que je faisais une monographie de la ville de Limoges où il y a 12 collèges. Donc si on ne peut pas descendre en dessous de 5 collèges, on ne peut plus territorialiser. Donc il y a un problème technique qui est celui de la territorialisation, celui de la qualité des catégories qui sont sociales, qui sont utilisées. Après, ce dont tu parles, c'est ce qu'on a appelé les palmarès des lycées au départ. Et d'ailleurs, ça s'appelait les IPES, mais avec un E, il me semble, hein, pas IPS, IPES, il me semble, ces indicateurs
Oui,
initiaux,
c'est le cas.
voilà, qui étaient des indicateurs de pilotage au départ des systèmes scolaires. Alors, moi, j'ai publié déjà plusieurs trucs sur ces palmarès, etc. Puis en plus, ça rejoint un peu ma thèse en montrant que si le privé est en tête, c'est parce qu'il sélectionne. Voilà, c'était un effet de sélection, c'est pas un effet de meilleure pédagogie. Bon, sans compter le fait que le privé s'autorise. Et je l'ai vu, puisque j'ai fait ma thèse là-dessus, à ne pas présenter des élèves au bac, ou à leur demander à se présenter en candidat libre, pour pas que ça plombe leurs données, quoi. Bon, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Bon. Après, sur l'ADEP, mais je veux pas trop qu'on m'étale sur le sujet. Moi, j'ai vécu plusieurs périodes. J'ai vécu celle que tu décris, c'est-à-dire avec une résistance de l'ADEP. Mais ensuite, j'ai vécu d'autres choses qui m'interrogent, c'est-à-dire avec des changements de direction de l'ADEP, le fait que ce soit, je l'écris dans un article quelque part, le directeur de l'ADEP qui signe l'édito dans l'Express du palmarès des établissements scolaires. Là, il y a quand même un glissement. Il y a quand même un glissement dans. En fait, je crois que ça rejoint un peu toute la question. Notre système éducatif. Mais pour le coup, ça rejoint aussi la première intervention. Notre système éducatif n'est pas stabilisé sur un modèle de régulation qui soit clair. C'est-à-dire que on pense service public, enfin on dit service public, mais on pense quand même régulation par le marché. Et ce problème n'est pas tranché. Il n'est pas tranché réellement. Hein, et ce qui rejoint aussi la question de l'enseignement privé. C'est-à-dire que moi, je l'avais écrit quand le directeur de l'ADEP signe l'édito de l'Express. Sans même évoquer les limites méthodologiques sur la publication de ces palmarès, je trouve que c'est honteux. Je trouve que, alors je ne sais pas s'il a l'autorisation du ministre pour le faire, mais je pense que ça ressemble à l'incitation à une régulation par le marché. Hein. Et on a parfois des choses qui sont étonnantes, ou sur des données qui permettraient d'améliorer le service public. On nous met des bâtons dans les roues, et sur des données, comme tu le dis, et moi je suis contre la publication de ces palmarès, qui en sont d'ailleurs rien que le mot est injurieux, je trouve, pour les écoles. Et ces données qui sont plutôt toxiques, puisqu'elles peuvent alimenter le libre choix de l'école, elles sont mises à disposition, y compris pour les collèges maintenant. Hein, donc, alors que quand Sarkozy avait proposé de les publier pour les collèges, il y avait une levée de bouclier, et petit à petit, on se laisse aller, on publie également pour les collèges. Alors, ensuite, concernant l'enseignement privé et après le premier degré, ces deux questions un peu différentes, elles se recouvrent un peu quand même, hein, sur les jardins d'enfants qui peuvent avoir un statut d'établissement privé, etc. Bon. Mais sur le privé, alors. Bon, moi je connais bien l'enseignement privé, je pense que. Et je connais Bernard Tout le Monde, et je suis pas sûr qu'il ait raison, en fait, dans ce qu'il dit. Il peut avoir raison, mais ça dépend comment on attrape le problème. Bon. Je pense qu'il y a, y a, y a, y a deux, y a deux écueils, mais le problème c'est qu'ils ne s'opposent pas, ils se cumulent. C'est-à-dire que tout renvoyer vers le privé, la responsabilité du privé, est je pense, une faute. Alors, c'est un peu vrai, même c'est beaucoup vrai, Mais la contrepartie que ça a, c'est que l'enseignement public fait comme s'il était ultra vertueux. Et des résistances de parents et des résistances de chefs d'établissement, etc., contre des resectorisations, on en a autant avec des grands établissements publics un peu bourgeois qu'avec des établissements privés qui, je le rappelle, ne sont pas concernés par cette politique. Hein? C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a. C'est pour ça que je dis que ce sont deux écueils qui se cumulent. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand on a des résistances sur, enfin, je sais pas, sur Berlioz, etc., dans le 18e, enfin, ma connaissance, c'était que des établissements publics et pas d'établissements privés, puisque le texte sur la mixité sociale ne concerne pas l'enseignement privé. Bon. Alors, donc, quand il y a des resectorisations et qu'il y a des résistances, on voit bien que je dirais le corps de l'enseignement public, c'est-à-dire enseignants, parents et parfois chefs d'établissement confondus, sont capables de faire corps contre une politique de mixité sociale. Donc, quelque part, la question du un peu chacun pour soi, etc., est un miroir très grossissant dans le privé, mais existe aussi dans le public. Voilà. Donc, la question de fond, la question qui est transversale, c'est pourquoi on avait écrit avec mon copain, voilà, j'ai dit mon ami, mon collègue Sylvain Brocoliti, dans, je crois, Les pièges de la concurrence, une expression qui s'appelle on est dans le sauve-qui-peut, c'est-à-dire chacun essaie de sauver sa progéniture par un choix d'école, etc., etc. La vraie question, c'est pourquoi en est-on arrivé là? On est censé parler de service public, là, aujourd'hui, enfin, on parle de service public. C'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance. Hein? Ils n'ont pas confiance dans l'établissement de secteur, enfin, sauf quand on est bien sectorisé. Et ils n'ont pas confiance dans parfois l'enseignement public. Ils font trop confiance à l'enseignement privé. Ils ne se rendent pas compte que c'est quand même un outil assez redoutable. Et ils n'ont pas confiance dans la façon dont l'État mène les politiques publiques. Donc là, il y a vraiment un problème de confiance dans le service public en général, ce qui conduit à ces pratiques individualistes. Mais là où on est un peu coincé comme chercheurs, un peu tous, c'est que ce n'est pas qu'une question technique ou sociologique, c'est une question idéologique. C'est-à-dire que sans être dans la théorie complotiste, on se demande si pour des libéraux en puissance, la création de ce non-sentiment de confiance n'est pas conforme avec l'idéologie libérale qui consiste à la mise en concurrence et au libre choix, etc., etc. Il y a certainement une cohérence dans tout ça. Bon. Et ça, je pense qu'il faut il faut l'attaquer. Concernant l'enseignement privé, bon, là, je réponds un peu à Bernard tout le monde, et à vous aussi. Bon. Il y a des secteurs, c'est vrai. C'est vrai. Là, je travaille sur Nantes actuellement, sur Rennes aussi, mais ça se passe un peu mieux sur Rennes. Il y a des secteurs où on a beau imaginer tous les scénarios. Quant à Nantes, vous avez un élève sur deux qui est dans le privé et que vous ne pouvez pas agir sur le privé. Là, il y a vraiment une énorme difficulté. Hein, il y a une énorme difficulté pour l'action publique. Hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir non seulement jouer que sur une marge de la mixité, mais on sait aussi que, et ça, je supporte pas ça, mais vraiment pas, que il y a toujours cette pression des familles pour dire si on n'est pas content, on ira dans l'enseignement privé. Hein, donc, il y a ce double jeu. Alors, ce qui veut dire, alors là, je vais en français peut-être une porte ouverte, mais avant, j'étais moins tendre que ça avec l'enseignement privé. Enfin, j'étais plus, comment dire, légitimiste, légaliste. Je pense que la situation n'est plus tenable, en fait. En France, elle n'est plus tenable. Il va falloir choisir un moment ou un autre. Je ne sais pas comment. Tout le monde a peur de la guerre scolaire. Tout le monde a peur d'un tas de choses. Je rappelle quand même que j'ai dit tout à l'heure, personne ne m'a repris, ça m'a surpris. J'ai dit, il y a un élève sur deux qui va dans l'enseignement privé. Bon, c'est pas dire qu'il y a 50% d'élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement privé et 50% dans l'enseignement public. Je reviens sur des données qui étaient celles de Gabriel Langouet et Alain Léger. qui expliquait qu'à l'échelle d'une famille, pour l'ensemble des enfants, au moins une famille sur deux scolarise au moins une fois son enfant dans l'enseignement privé. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec les 15 ou 17% que nous sort l'éducation nationale sur des données qui sont brutes. Alors, sur l'enseignement privé, je ne vais pas trop développer, est-ce qu'on pourrait faire une journée sur l'enseignement privé ? Je pense que l'enseignement privé, ses justifications historiques, c'est-à-dire celles qui ont abouti au vote de la loi de 59, ne sont plus d'actualité. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi un peu rapidement. Deuxièmement, le problème de l'enseignement privé, c'est que l'enseignement privé, et là ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur le libéralisme rampant, avec la complicité de nos dirigeants, non seulement alors, enfin, est très légaliste quand il dit on ne peut pas nous supprimer parce que c'est prévu dans la Constitution. L'enseignement privé n'est pas prévu dans la Constitution. Bon. C'est la libre conscience qui est prévue dans la Constitution. Donc j'y reviendrai là-dessus. Mais à l'égard de l'enseignement privé, et c'est ce que je conteste au moins dans un premier temps, si on avait un jour des dirigeants un peu courageux, c'est qu'ils arrêtent de laisser l'enseignement privé faire ce qu'il veut. Je rappelle quand même que la sélection à l'entrée de l'enseignement privé est, dans les textes, interdite. En tout cas, pour des raisons, pour des questions religieuses. Hein. Moi, j'ai fait la statistique sur des cohortes. Si vous prenez des enfants d'ouvriers qui rentrent dans le privé à l'école primaire, vous en perdez 80% qui vont se présenter au bac. C'est-à-dire que cette sélection, elle est à l'entrée, elle est en cours de parcours. Qui s'en occupe d'un point de vue juridique, hein? Comment se fait-il qu'il y a, au nom du droit de l'éducation, je les ai dans mes archives, d'ailleurs un établissement scolaire qui est pas loin d'ici, hein, c'est assez curieux, des bulletins scolaires qui disent, voilà, tel niveau, et une case à cocher, retourne dans l'enseignement public. Enfin, les enfants, c'est pas des stocks. Hein. Comment ça peut être autorisé, ces documents, hein, par la loi? Et là, c'est là que moi je m'engouffre et que j'aime bien un petit peu remuer le couteau dans la plaie, c'est que ces élèves à qui on dit retourner dans l'enseignement public, ils y retournent, les chefs d'établissement refusent parce qu'ils en ont marre d'être humiliés, public, et les élèves y retournent pourquoi? Parce qu'il y a une sectorisation qui là les protège. Donc un jour les parents contestent la sectorisation, un autre jour, comme c'était le cas à Paris, ils vont se constituer, faire un recours devant le tribunal administratif en disant j'habite ici, c'est pas parce que ça fait 4 ans que mon gamin est dans le privé qu'il n'a pas le droit de finir son collège au privé, donc c'est l'État qui est condamné. Donc il y a quand même une schizophrénie, enfin il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de notre système éducatif. Alors je voudrais juste dire un point sur le privé qui est essentiel et qui peut-être, mais je ne connais pas l'argumentaire de Bernard Tout le Monde sur le privé, mais moi j'en ai un qui est redoutable. C'est que, enfin je pense qu'il est redoutable, c'est que dans la loi de 59, il ne faut pas oublier pourquoi est-ce qu'on a permis la contractualisation. On a permis la contractualisation parce que dans une période, parce qu'il y avait une guerre scolaire à gérer, mais donc on a fait un enseignement privé non religieux, alors que celui qui parle au nom de l'enseignement privé, c'est le secrétaire général de l'enseignement catholique. Et quand je dis qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent, là, ils font ce qu'ils veulent. J'ai fait un papier dans le café pédagogique où je me suis adressé à lui en lui rappelant que ce n'était pas lui le ministre de l'Éducation nationale et que le ministre de l'Éducation nationale ne se grandissait pas d'être dans ses petits souliers lorsque Delorme prenait la parole dans un État laïque. Et ça, il faudrait le dire de temps en temps. Il y en a marre d'entendre parler le secrétariat général de l'enseignement catholique. Pourquoi? Parce que l'enseignement catholique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'enseignement privé contractuel, avec toute forme de liberté éducative. Ça peut aller des écoles Montessori à je ne sais trop quoi, mais catholique, c'est peut-être des réminiscences de l'histoire, mais ça n'a aucun statut. C'est-à-dire qu'on est devant quelqu'un... Excusez-moi, j'étais très en colère, là, au moment du ministre Pape Ndiaye, de ses échanges avec le secrétaire général de l'enseignement catholique qui avait une arrogance, je le dis franchement, mais qui ne représente rien d'un point de vue institutionnel, rien. Le ministre a 100 fois plus de pouvoir que lui. Enfin, c'est quand même incroyable que ce soit le ministre qui signe les contrats et qui autorise l'ouverture des classes, et que ce soit celui qui bénéficie des contrats qui émette ces conditions. Dans quel autre système contractuel on voit ça? Ça n'existe pas. Il y a un truc qui ne va pas. Mais surtout, ce qu'on a oublié, c'est que il y a eu donc une façon de régler la guerre scolaire, mais il y a eu la massification. Et il y a un article dans la loi de 59 qui dit que l'enseignement privé peut s'implanter en cas... alors, j'essaye de retrouver le terme. Je crois que je l'ai perdu au passage. Je l'avais tout à l'heure. Dans les cas où l'enseignement public ne peut pas assurer lui-même le service public d'éducation. D'où le fait qu'il est, ce soit un service public, un service privé avec une mission de service public. C'est ce qu'on appelle le besoin scolaire reconnu. C'est m'est revenu l'expression juridique. Et il est clairement indiqué que l'enseignement privé ne peut pas s'implanter dans une logique de concurrence avec l'enseignement public. Donc, de ce point de vue-là, si nous avions des politiques courageuses, on ne peut pas se retrouver dans un contexte comme le contexte, par exemple, nantais, que je connais bien, puisqu'on parle de Nantes là, dans la presse actuellement, où on a des établissements publics qui perdent des effectifs et l'enseignement privé qui ouvre des classes. Je suis désolé, c'est contraire à la loi. C'est pas une question de guerre scolaire, c'est pas une question d'idéologie anticléricale. C'est une question de... On peut pas un jour dire il y a la loi de 59 qui nous protège, mais lire les articles de la loi de 59 comme ça nous arrange. C'est-à-dire, je rappelle quand même que lorsque le ministère avait lancé la politique de mixité sociale, il s'est engagé à interdire l'extension d'établissements privés et l'ouverture de nouvelles classes. Et sur quoi il se fondait juridiquement? Ben sur cet article de la loi de 59. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à Nantes, ils construisent. À Nantes, ils ouvrent. Et en attendant, qu'est-ce qu'on a? On a des établissements REP, REP+, à 30 ou 40% de leurs effectifs. Donc si on avait une volonté politique, avant le grand soir de l'intégration de l'enseignement privé dans l'enseignement public, eh bien, on fermerait des établissements privés. C'est-à-dire que s'il y a une démographie qui ne permet pas de faire tenir autant d'offres scolaires sur un territoire, celui qui doit fermer ou être décontractualisé, ce serait l'enseignement privé. Alors vous allez me dire, ça va peut-être créer un peu de remous. Hein.
Quelque peu.
Comment ?
C'est les accords langues nouvelles qui ont arrangé les
choses. Exactement. Mais ça va créer des remous, mais là, je ne voudrais pas être démago, mais quand les cités crament, etc., hein, ça en fait des remous. Ça émeut moins que quelques conservateurs, etc., qui vont vous dire on est pour notre enseignement privé. Bon, par ailleurs, je rappelle que le principe, c'est la liberté de conscience, qui n'est pas une liberté que religieuse. Et dès lors que l'enseignement privé, je me réfère à un article d'Antoine Pro des années 90 qui s'appelait « L'enseignement libre change de fonction », qui montrait très bien que le privé était rentré dans une logique marchande et non plus réellement par rapport à le caractère propre de l'enseignement privé. Qui en parle encore? Personne. Donc s'il n'y a plus de motifs, je dirais éthiques, philosophiques, pour aller dans le privé, que la seule philosophie c'est de ne pas aller dans les écoles des gamins de quartier et que par ailleurs on ne respecte pas les dispositions de la loi de 59, moi je dis à tous les ministres que je croise, il faudrait peut-être remettre un petit peu maintenant le sujet sur la table, parce que c'est pas tenable. Mais on voit très bien que personne n'a intérêt à le faire.